Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Sans nom dans laquelle on suit Ella Maillard vers les oasis interdites pour allier Pékin à l'Inde. J'espère que vous allez toujours bien. Je me rends compte que je vous dis toujours la même chose en introduction de cette émission, j'en suis navrée. Mais vous savez, c'est un peu compliqué d'être créatif en ce moment. J'espère que vous êtes installés correctement et vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les podcasts de cette émission sur le site de Campus Grenoble, sur campusgrenoble.org. Vous avez tous les épisodes les uns à la suite des autres sur une seule page. C'est sur la première page sur le site web. Vous pouvez tout retrouver comme ça, si vous avez beaucoup de temps et que vous n'avez pas envie de faire autre chose, et ben vous pouvez réécouter toute l'histoire en entier. Voilà. Je vous rappelle que hier on s'est arrêté au milieu du chapitre 2 de la deuxième partie. Ella et Peter ont suivi Borodichin, qu'ils ont retrouvé dans le Tsedam, et ce dernier doit les emmener avec leur chameau à la prochaine étape. Et c'est parti! Égaré. Il y a 8 jours que nous avons quitté Arakshatu et ce matin, l'air vif crée une atmosphère de haute montagne, tout près de la source du Boronkol, où nous avons passé une nuit glaciale. Contrairement à ce qu'il se passe dans les Alpes, à l'origine des cours d'eau, la vallée n'est ici qu'un immense plateau à peine incliné et les montagnes semblent avoir disparu. Nous partons vers le nord-ouest, laissant derrière nous un maigre filet d'eau gelée, et Boro déclare inutile de remplir la barrique, car nous trouverons une source ce soir, après avoir traversé un gobi, je vous rappelle que ça veut dire désert, d'une 60aine de lits. Akpan emporte une provision de racines dans un sac, parce que loin des pistes, il n'y a pas d'argole pour faire du feu. Déserté depuis 2 ans, le sentier a disparu. La région ne semble fréquentée que par des antilopes. Ça et là, leurs carcasses sèchent au soleil. Sur le passage des Hardes, le sol garde l'empreinte de leurs pieds en forme de cœur, qui fait penser aussi à 2 amandes comme une Philippine indivise. Nous avançons sans repère. Depuis que j'ai quitté le Tsedam, je relève la route sur la boussole de Norin, jouant à l'exploratrice. Il n'y a guère que les voyageurs Carré qui aient suivi cette vallée en 1886. Je remarque aujourd'hui qu'Akpan, lorsqu'il marche en tête, fait route plus au nord que Boro. Mais lorsque je m'en inquiète, il me répond que c'est voulu. Le ciel bleu foncé est semblable à l'océan lorsque règnent les rafales compactes de l'Alizé. À intervalles réguliers, tous égaux, de blancs nuages gonflés, force de voile pour se poursuivre jusqu'au fond de l'horizon. Enfin, devant nous, comme un îlot, apparaît à midi le sommet noir d'une montagne pyramidale. Nous le prenons pour le Karakucha, qui abrite notre source. Mais 3 heures plus tard, nous arrivons au contrefort de la montagne, pour nous apercevoir que celle-ci n'est autre que la très haute chaîne du Karyagdé. Boro, qui n'est passé ici que 2 fois, ne reconnaît rien. Pour obtenir une idée plus complète de la région, nous grimpons vers un col dans un vallon raide où Grease n'avance qu'à coups de cravache. Et cette ascension nous exténue car nous sommes à 5000 mètres dans un air raréfié. À peine avons-nous gagné la hauteur que le brouillard et la neige nous assaillent. Parti en éclaireur, Akpam revient bredouille. Il n'est jamais venu dans cette région et la montagne à notre droite est à coup sûr infranchissable. Boro fait pitié. Il répète sans cesse « Chotakoy ? Qu'est-ce que c'est ?» et essaie en vain de comprendre comment nous nous trouvons ici. Redescendu, Boro veut retourner vers l'ouest, tandis qu'Akpam fait une courte reconnaissance vers le sud. Peter et moi délestons les chameaux et plantons la tente sur la terre nue, résignés à camper sans herbe et sans eau. Il y a 12 heures que nous marchons et les bêtes mal nourries ne veulent plus avancer. La petite tente ornée de nos bagages et de son tapis de feutre crée, une fois de plus, une sensation de confort qui nous est chère. Mais Boro est trop fiévreux pour en jouir. Il souffre de la soif au point qu'il ne peut avaler son biscuit. Cet homme au cœur d'or se fait beaucoup de soucis pour nous et nous l'aimons bien. Non seulement je trouve en lui un nouvel interlocuteur, mais je crois que nous sommes aussi tous trois rapprochés par nos habitudes communes de propreté et d'ordre. Boro ne veut accepter qu'une rasade de cognac, tandis que Peter, lui, se met en devoir d'avaler de la tsamba faite avec de la graisse de mouton froide, ce qui a pour résultat une nuit atroce. Dehors, en short, saluant le soleil levant, je racle la neige légère tombée sur la tente. Mais cette récolte est inutile, car Boro et le Mongol reviennent d'une reconnaissance. À 5 ou 6 kilomètres au sud, ils ont bu à notre fameuse source, presque gelée, et 2 heures plus tard, notre petite caravane y arrivait à son tour au complet. Recherche. Mais un piquet de tente a été perdu en route, et comme il est irremplaçable dans ce pays sans bois, je pars à sa recherche. Allant d'un pain égal, je me sens très en forme, pleine d'une joie incomparable à celle que j'éprouve lorsque je pars sur mes skis par un matin d'hiver bien sec. Et là, sur ce haut plateau d'Asie, je chante « I'm sitting on the top of the world ». Puis je ris sous le grand ciel. Quelle bizarre situation que celle qui réunit Peter et moi au centre de ce continent. À vrai dire, elle pourrait sembler romanesque. Et si j'écris un livre à succès, c'est aujourd'hui ou jamais que les deux héros de mon histoire, émus et reconnaissants, devraient tomber dans les bras l'un de l'autre après s'être mutuellement sauvés d'une nourriture empoisonnée ou d'un brouillard fatal. Tant pis pour les amateurs de romans. Peter est le meilleur des camarades et je me trouve être avec lui d'une franchise absolue. Notre entreprise nous lie l'un à l'autre, il est vrai, au point que vivant un peu comme deux naufragés sur une île déserte, il arrive que les remarques prononcées chaque soir au-dessus de la soupe aient été pensées simultanément par tous les deux au cours de la journée. Mais seuls nos deux égoïsmes sont en présence et s'entraident. Nos divergences m'apparaissent clairement. Nous vont tous deux nos loisirs au grand air, Peter à la chasse et moi au ski. Mais après, Peter me trouve trop sérieuse et je saisis pas bien l'humour britannique, ce qui est aussi grave aux yeux d'un Anglais que perdre la face pour un Chinois. J'ai le mauvais goût de faire la morale. Je l'ennuie avec mon besoin de comprendre les milliers de vies diverses qui composent l'humanité et avec la nécessité que j'éprouve de rapprocher ma vie à la vie générale. Enfin, peut-on être assez folle pour scruter si les efforts des hommes améliorent l'âme humaine ? Rien de tout cela ne tourmente Peter, qui, dans sa sagesse imperturbable, observe les êtres humains comme les caractères d'une comédie. Quant à son moi profond, sa timidité le cache presque toujours sous une dignité facétieuse. Sauf à de rares intervalles, il semblerait persuadé que ce qui a rapport à lui ne peut intéresser personne. Mais voici le piquet retrouvé. C'est ce qui importe pour l'instant, et je chante mon succès en revenant vers Peter qui, debout, attend de me voir poindre dans la plaine qui domine. Chapitre 3. Les hommes au bout du monde. Alors là, il y a tout un tas de petits mots en chinois et en mongol, je ne vous raconte pas, mais on va s'en sortir. Le 10e jour, nous arrivons en vue d'Issyk Pakhté. Quelques yourtes plantées sur un îlot de terre au milieu de fondrières marécageuses. Au nord se dressent les pics abrupts du Kadriadjé. Le premier Turki que nous croisons est un berger roux, aux yeux clairs, au nez droit, et dont le visage brûlé par le soleil de l'altitude est du même acajou que celui des Mongols. mais au lieu de peau de bête, il porte des habits de coton indigène et des bandes d'étoffe entourent ses jambes. Boro l'appelle un Sart, du nom qu'on donne au Turkestan russe, à tous les Iraniens turquisés qui sont sédentaires. Les Chinois appellent ces musulmans de l'Asie centrale des Chantos, ce qui veut dire « tête enturbanée ». Nous avançons, Grease cravaché par son maître et remorqué malgré lui par Slalom, plein d'ardeur. De lui-même, Peter reconnaît la vaillance de mon cheval et retire tout ce qu'il a pu dire de sa laideur et de sa bêtise. Dès que nous sommes arrivés, quelques Turquies reconnaissent Boro, l'accablent d'amitié et l'entraînent tandis que nous plantons la tente. Mais personne ne nous invite à boire le thé. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Nous ne tardons pas à savoir tout ce que l'on peut savoir. Sur le point de toucher à la province convoitée de Xinjiang, nos chances d'y entrer ne sont pas plus fortes que lorsque nous étions à Pékin. Depuis 2 ans, depuis la fanatique révolte musulmane dans les oasis du sud, nous sommes les premiers à nous présenter chez les Turquies. Pendant tout ce temps, ils n'ont vu personne, sauf un Mongol envoyé par le prince de Tadjinar pour savoir si ces terres d'Izikpakhtay étaient encore habitées. Étant sans nouvelles, ces Turquies, au nombre d'une quinzaine, n'ont pas osé retourner dans la plaine pour se réapprovisionner et par la suite, craignant les représailles après le meurtre de 2 Chinois dont j'ai parlé, ils ne bougèrent pas davantage. D'autre part, tandis que les terres d'Izikpakhtay appartiennent aux Tsedam, eux-mêmes dépendent de l'oasis de Charlik, à l'extrémité limite orientale du Xinjiang, oasis en guerre avec Tchétchène, où nous voulons nous rendre. Aussi, nos Turquies hésitent-ils à nous servir de guide ? Dans tous les cas, ils ne se risqueront pas au-delà de Turuskay, qui marque la frontière du Xinjiang dans les monts Altingat, à 6 jours d'ici, et où se trouve peut-être un poste militaire. Alors c'est pas Altingat, c'est Altingtag. Quant à Boro, ainsi que nous le pensions, il ne peut aller à Tchétchène qui appartient toujours au Dungan, ennemi de tout ce qui est russe. Voilà qui est peu rassurant pour nous. Quant à ces montagnards isolés, ils payent cher le calme de leur retraite. Ils n'ont plus de thé et boivent une infusion de poivre noir à laquelle ils ont osé nous inviter. Depuis 1 an, ils n'ont plus de farine et se nourrissent exclusivement de viande. Aussi, notre arrivée les plonge-t-elle dans une joie des plus intéressées. Nous avions bien fait de nous munir de thé. Dignes, 2 femmes me rendent visite, tout en filant leur laine grise. Leur petite toque ronde de fourrure maintient sur leur tête un grand carré de coton dont un pan est rabattu devant leur visage à la mode musulmane. Elles sont vêtues du chapan, porté par toutes les populations turques de l'Asie centrale, vrai caftan d'étoffe ouatinée. Quant à leur visage, ils pourraient presque être européens. J'entends par là qu'ils ne portent aucun caractère nettement asiatique. Je surnomme même l'une d'elles Phèdre, tant son maintien et son profil évoquent une tragédienne classique. « Hon hon, farine !» me demande-t-elle. Et par une mimique expressive, elles me font comprendre que c'est le seul remède contre le mal de tête dû à leur diète de viande. Je ne peux leur en donner qu'une assiettée, car il m'en faut encore pour 15 jours au moins, même si nous ne nous arrêtons pas ici. Cependant, il faut 2 jours de repos à nos chameaux, qui ont ici de quoi pâturer. Quant à Grease, jadis si plein de feu, il ne peut plus continuer. Le maigre slalom, lui, n'a jamais refusé de me porter lorsque j'avais besoin de lui. Il a même réussi à traîner Grease, comme un remorqueur, une péniche amorphe, et cet animal est si plein de bonne volonté qu'il ne s'arrêtera, j'en ai peur, que pour s'écrouler. Un de nos hôtes, qui me rappelle une miniature persane par son nez busqué et sa barbe en collier, nous présente 2 petites pouliches que Peter qualifie d'amphibies, car toutes boueuses, elles sortent d'un marécage. Peter échange Grease contre la rousse, dont le pelage d'hiver tombe par plaques et évoque un tapis mangé de mythes. Il la baptise Sinara, tandis qu'on ferre ses sabots démesurément allongés par l'inaction. Peter contemple encore Grease avec grand regret, et Boro dit au persan d'être bon pour le petit cheval noir afin qu'il ne soit pas triste dans son cœur d'avoir perdu son maître. Les trois yourtes proches de notre tente sont misérables. Dans l'une d'elles, un homme rieur au nez pointu prépare, avec notre farine et notre graisse de mouton, une nouvelle provision de petits cubes de pâte. Tocht Hanoun, son frère, accompagnera le doyen du camp, à sa canne, qui sera notre guide. Tocht Hanoun rapporte à l'instant deux antilopes tuées par Peter, et sous sa yourte, j'admire pour la première fois avec effroi ses capacités de mangeur. Pour tenter les turquies, nous avons promis de nourrir nos guides. Il plaque des tranches d'âne sauvages contre les barres de fer du foyer et, à peine grillées, les avale sans mâcher. Et là, je vois aussi les fumeurs poser sur le fourneau de leur pipe un petit fragment de pâte verdâtre. C'est le nacha qu'on fabrique avec le suc extrait des tiges incisées du chanvre. C'est le hashish. Vous pensez bien au hashish que l'on connaît, bang en chinois ou ganja en Inde. Hécatombe et préparatif. Dans ma comptine qui contient toutes nos richesses, boîte de médicaments, gramophone, machine à écrire apportée en prévision d'un fastidieux séjour en prison, j'ai renouvelé les provisions pour 10 jours. J'ai fondu la graisse de mouton, cassé le sucre, émietté une brique de thé qui sent le foin, remis du riz, de la tsamba, ainsi qu'une boîte de cacao, une boîte de confiture, un paquet de bougies, une bouteille de curry, une autre de cognac et quelques gousses d'ail. Tout est paré pour nos festins à venir. Don de Monsieur Kimball Alanchot, cette caisse cantine, qui porte encore le nom d'un missionnaire du Yangtze, joue un rôle capital dans mon voyage. Sans elle, je ne suis rien. Elle contient tous mes attributs de médecin, de chef d'orchestre et de cuisinière. Elle avait 2 clés, et comme Peter en a perdu une depuis longtemps, j'ai seul accès à toutes ces richesses. Ici, les chasseurs étant à court de munitions, nous parvenons à acheter 2 cuillères de bois, qui valent chacune 1 mouton à Zoun, contre 22 cartouches de la grosse carabine qui ne nous est d'aucune utilité. Cet achat est très important, car jusqu'ici, le pauvre Peter mangeait sa soupe avec une cuillère à thé, toutes les autres s'étant cassées, tandis que j'avançais 2 fois plus vite que lui avec mon couvert de poche brevetée. Enfin, contre une bouteille vide, un paquet de boîtes d'allumettes et un savon, j'obtiens 5 brasses de cet admirable homespoon, des montagnes dont les femmes filent la laine et tissent les manteaux des hommes. Il me reste encore à faire une lessive avant d'être prête pour au voyage. Peter, optimiste comme toujours, me répond qu'il ne porte sa chemise que depuis 15 jours. Je passe outre en le traitant de barbare. Et au moment de mettre à sécher ce vêtement, voilà que je distingue, tapis dans un pli, une petite bête pâle. Puis je ne tarde pas à mettre 8 adultes de la même famille sous les yeux de leur propriétaire, sans compter les 170 œufs minuscules que je dénombre impitoyablement. En guise de remerciement, j'entends la voix de Peter, un peu confus, déplorer la solitude où il sera désormais sans ses petites bêtes. Mais il s'agit maintenant de passer à un exercice intellectuel des plus utiles. Avant son départ, Boro doit nous apprendre une 40aine de mots turquis afin que nous puissions faire face aux principales éventualités. Boro a été admirable. Il a vaincu les dernières hésitations de notre guide grâce à la pénurie de farine. Tout le monde, en désirant ardemment, il a prouvé à Asakan qu'avec notre argent, il en pourrait acheter s'il nous conduisait jusqu'au campement, d'où quelqu'un serait capable de nous mener à Tchertchen. Si cette oasis était encore en guerre, Asakan veillerait à ce que nous la fasse éviter en nous menant plus à l'ouest sur la route des caravanes. Pour décourager une attaque éventuelle de voleurs, Poro a dit que nous ne dépenserons en ce moment nos derniers dollars et qu'à partir de Tchertchen, nous comptions sur l'argent de la vente de nos chameaux. Il faudra donc bien prendre soin de ceux-ci qui représentent tout notre capital. Ce soir, pour la dernière fois, Boro s'accroupit sous notre tente pour fumer sa pipe. À sa blague en étoffe, prend une coquille de noix dans laquelle il met les dernières braises de sa pipe finissante. Puis, à peine rechargée, il la rallume habilement en renversant la braise sur le fourneau, ce qui lui évite de battre son briquet mongol, dont le fer en demi-lune est frappé contre un silex entouré d'amadou. Pendant la nuit, par une coïncidence curieuse, un messager est arrivé à pied pour dire que la guerre civile a cessé, Tcharklik étant tombé au pouvoir des Dungan. Ceux qui craignent les nouveaux maîtres sont en fuite vers Tunhang, sur la route du désert. Chapitre 4. Caravane en danger. Alors là, c'est pareil, c'est un long chapitre, peut-être qu'on n'aura pas le temps de le finir, puisqu'il y a Caroline qui va vous lire des contes par la suite. La petite noix de sa blague à tabac se balançait au rythme de sa chamelle. Notre ami Borodichin, que nous ne reverrons sans doute jamais, s'en retourne accompagné d'Akpan vers sa yourte isolée du Tsedam. Quant à nous, c'est à l'opposé que nous partons, assurés maintenant de rejoindre dans 15 jours la piste des oasis, l'ancienne route de la soie qui menait au pays des cerfs. Les nouvelles de cette nuit ont rendu le sourire à notre guide. Le rusé Asakan et Peter rayonnent heureux d'être à cheval au lieu de tirer sur un licol de toutes ses forces. Nous ne nous doutons guère de ce qui nous attend. Comme pour confirmer ce bon début, 2 heures plus tard, nous savourons une omelette merveilleuse aux œufs d'oie sauvage dans une yourte qui respire le confort grâce à son foyer central en terre et aux bonnes couvertures empilées sur des coffres semblables à ceux des Kirzig. Il fait bien chaud. Une famille nombreuse nous entoure et les enfants jouent avec ma boussole. Au moment de partir, je fais largesse de mon collier à la maîtresse de maison. Une fois de plus, je dis adieu à toute habitation. Je ne dois plus en voir de 12 jours. Lorsqu'on sait qu'on peut repartir, la région des Sikpaktés est d'une beauté inoubliable. Au centre du plateau s'étale le bleu intense d'une langue enchâssée dans la terre beige, elle-même dominée par les monts noirs aux crêtes neigeuses. Lorsque les Mongols Torhout se rendent en pèlerinage à Lhasa, ils empruntent parfois une piste qui passe là-bas vers le sud. Par-delà, une ramification des Kuenluen, dans un désert semblable à celui que nous traversons. Dépourvue d'eau de bois ou d'herbe, couverte de sel, plate comme une inutile aérodrome, c'est bien l'une des régions les plus désolées qui soient au monde. Cependant, des antilopes vivent ici. J'en vois qui se baignent dans un bras de la lagune, ainsi que des ânes sauvages dont nous brûlons les crottes dans notre feu chaque jour. Les antilopes nous examinent de loin, comme étonnées de voir des bêtes marcher au pas sans brouter. Le second soir, après une marche de 9 heures, nous approfondissons avec la poêle à frire un trou que d'autres voyageurs ont dû creuser. L'eau douce filtre suffisamment pour que nous puissions faire du thé. Mais les bêtes sont inquiètes et Slalom n'est pas satisfait de sa petite ration d'orge. Vivant point d'interrogation, il y a une manière charmante de passer la tête dans l'entrée de la tente dès que nous mangeons notre soupe et je le vois même croquer l'omoplate d'antilope que je viens de jeter dehors. Le troisième jour, nous longeons un immense lac salé, l'Ailgum Kul, dont les vagues d'un bleu méditerranéen charme l'œil lassé par les plateaux incolores. Là, sur la grève, un filet d'eau douce sourd au creux d'une petite plaque d'herbe verte. On agrandit la cavité pour en faire un abreuvoir, et Slalom boit à mesure que l'eau baisse. Il allonge son cou à tel point que ses jambes en tremblent. Il tombe même à genoux à 3 reprises en voulant étancher cette soif inextinguible. À pied, Tokt Aoun, qui, de loin, semble vêtu d'une robe de chambre, remorque les chameaux. Asakan, perché sur sa bête, ne s'occupe de rien. La belle humeur du départ a disparu, car les chameaux avancent mal. Le plus vieux s'accroupit souvent et ne se relève que lorsque l'on le malmène. Peut-être ses dents très usées ne lui permettent-elles pas de manger le bourtouga, touffe d'herbe sèche et tordue de petites branches rampantes ? Va-t-il falloir l'abandonner s'il ne peut plus nous suivre ? Nous aurons à marcher maintenant quelques 10 heures par jour. Quant à la perle, elle a les incisives cassées, selon Bourreau, parce qu'elle est tombée sur la glace l'hiver dernier, et nous pensons maintenant que le Premier ministre nous a roulés. Les bêtes abandonnées. Une fois encore, le quatrième jour, dans un trou d'eau douce sur la grève du lac Salé, nous abreuvons les bêtes et remplissons notre barrique. Quant à de l'herbe pour les chevaux, Asakan laisse enfin entendre qu'il y en aura quelque part derrière les ondulations qui barrent maintenant notre horizon. Nous avons bien besoin de cette herbe nouvelle, car le sac de grains est presque vide. Et j'en suis venue à étoffer la ration de slalom avec ma part de tsamba mélangée à des morceaux d'antilope crue. Quant à la pouliche, elle a encore des forces en réserve. Pour me distraire de ce souci, Peter affirme que si nous cherchons bien, nous allons trouver du caviar sur la grève du lac. Mais mes pensées ne peuvent se détacher de nos bêtes et de la route qu'il nous reste à parcourir. Le vieux chameau vient de s'accroupir encore, mais cette fois, malgré les coups, il ne se relève pas. Figé, perdu dans ses pensées lointaines, il semble regarder vers l'autre monde. Comme il ne porte plus de charge, il ne reste que le bas à sauver et la cheville qui traverse son nez. Asakan s'en empare et continue sa route comme si de rien n'était. J'essaie d'imaginer que je suis comme lui, un vieux chamelier fataliste. Somme toute, nous avons vu jusqu'ici tant de carcasses le long des routes fréquentées que je me demande pourquoi, nous aussi, nous ne perdrions pas une fois un chameau. Derrière nous, l'abandonné devient de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un point parmi les rares bourtagas. Quoiqu'un geste de Tok Haun ait semblé dire que tout était fini, la bête n'a pas été achevée. Un animal jeté sur le Gobi, comme disaient les caravaniers, peut être sauvé par un miracle. Si on le tuait, son âme troublée suivrait les autres chameaux et leur porterait malchance. Et les chameliers mettent un poids d'honneur à perdre un chameau avec désinvolture. S'ils laissaient voir combien ils sont attachés à leur bête, une puissance maléfique s'attaquerait au reste de la caravane, comme le dit Latimore. Ce soir-là, nous campons dans un triste pli de terrain et sur la tente, les flocons de neige tombent avec un bruit d'élytre. Même l'arôme dégagé par la marmite de riz ne parvient pas à nous égayer. Incapable de peinturer, un deuxième chameau est malade, immobile devant notre tente qu'il a failli écraser en s'accroupissant. J'ai sauvé notre abri en faisant se déplacer la pauvre bête après lui avoir labouré la hanche avec la louche. Voilà notre caravane fort mal en point déjà, et si cela continue, c'est à quatre pattes que nous rejoindrons le prochain lieu habité. À vrai dire, nous nous sentons coupables. Pourquoi, à cause de nous, ces bêtes doivent-elles mourir après avoir été rouées de coups ? Le plus fatigant, à la fin d'une journée pareille, est de surveiller Tok Hanun qui soustrait de la farine ou escamote l'une des côtelettes qu'il met à bouillir. Il est tellement obsédé par l'idée de manger qu'il doit avoir le ver solitaire. À la fin du repas, le plus énorme, il me supplie avec ses yeux verts de chien battu « Talkanbar, avez-vous de la samba ?» Pour mettre fin à ses prières, nous avons fait deux parts de ce qui nous restait. Une pour nous, l'autre pour lui et son maître, qu'il se débrouille. Et voilà, on n'a pas fini ce chapitre. On revient dans ce camp, demain, où on suivra encore les chameaux, dans le livre « Oasis interdite » d'Ella Maillard. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, que vous allez bien. Et bien, on se retrouve demain. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Et maintenant, c'est Caroline. Et c'est compte-gouttes. À très vite et bon après-midi.